La dernière fois que j'ai eu le plaisir de vous présenter, chère Roselyne Bachelot, c'était pour un ouvrage publié il y a plus de 10 ans. Nous nous étions rencontrés dans les salons Albert Mola, tout en haut de l'immeuble de la rue Vital-Carl. Le titre du livre donnait déjà le ton de l'ouvrage, je le cite, « À feu et à sang, carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers ». C'était en juin 2012 et vous portiez un témoignage direct sur la campagne présidentielle qui venait de s'achever et qui avait vu la défaite du président sortant Nicolas Sarkozy, dont vous étiez la ministre depuis 5 années, mais également, je crois, une des porte-parole de sa campagne. En janvier 2023, chez Plon, la maison d'édition qui, pour la fille de gaulliste historique que vous êtes, et la gaulliste, c'est pas rien, je rappelle que vous êtes, que votre papa Jean Marquin, on y reviendra, était du député du Maine-et-Loire, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et a eu une des toutes premières cartes, je crois, d'adhésion du RPF. C'est symboliquement important de publier chez Plon, hein, la maison
d'éditeur du général de Gaulle.
Et vous témoignez des 682 jours que vous avez passé rue de Valois à la tête du ministère de la Culture du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. Le titre de votre ouvrage, cette fois-ci, est purement factuel. Mais le bandeau rouge de la couverture, je le précise, il ne s'enlève pas. C'est pas nécessaire d'essayer de l'arracher. Lève toute ambiguïté, le bal des hypocrites. Alors, on connaissait le bal des faux culs, autre manière de désigner les menteurs, puisque le faux cul était ce rembourrage qui rendait calipige sous la robe des postérieurs qui n'étaient pas fessus et donc trompait l'éventuel donjon. J'aurais envie de dire c'était bien fait pour lui. On connaissait le bal des maudits, un très grand film d'Edouard Mitrick, sorti en 58 avec, tenez-vous bien quand même, Marlon Brando, Montgomery Cliff et Dean Martin, 3 Oscars Hollywood. On connaissait le bal des lazes, une très belle chanson de Michel Polnareff, sorti en 68, qui à sa manière dénonce aussi des aristocrates hypocrites et foucus. Nous allons découvrir dans notre conversation quelques-uns des hypocrites que vous avez croisés pendant vos 682 jours. Dans le fauteuil de Malraux. Ma première question, elle nous fait rentrer dans le tout début de votre ouvrage. Pourquoi, quand Jean Castex arrive, après plusieurs difficultés, à vous joindre, donc à la troisième tentative, tard dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020, alors que vous êtes promis à vous-même et à vos proches, dont vos enfants, de ne pas repiquer au truc, répondez-vous, pour la culture, c'est oui.
Bonjour ou bonsoir maintenant à toutes et à tous. Merci de commencer par cette incipit de mon livre. Vous signaliez que vous m'aviez qu'est-ce passé à la question il y a 10 ans. Et c'est vrai que j'estime qu'il est important, quand on est rentré dans le ventre du monstre, de faire un retour d'expérience. Je l'avais fait en étant ministre de l'écologie avec Le combat est une fête, à feu et à sang, en sortant du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et je le fais pour ces 682 jours passés à Valois. C'est vrai, vous avez raison, j'avais promis de ne pas repiquer au truc. J'estimais que j'avais bien servi mon pays et que je méritais de faire autre chose, tout en ne reniant pas ce que j'avais fait. Mais quand même, j'avais une sorte de désir inavoué, inassouvi, pas inavoué, mais inassouvi en tout cas, c'était d'être ministre de la Culture. Si j'ai répondu à cet appel de Jean Castex, il me dit d'abord « Est-ce que tu pars avec moi au gouvernement ?» Je lui dis « Non, non, ça, je ne pars pas, je suis déjà parti. » Et il me fait le fourbe. Il me fait « Et si c'est pour la culture ?» Eh oui. Et si je suis parti, c'est parce que, reparti, c'est justement parce que la culture était en danger, que c'était pas d'être un ou une ministre de la culture habituelle. J'emploie souvent cette image du vieux soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire, qui quand même ouvre de temps en temps la porte du placard, qui regarde si le fusil est toujours en état de marche, en se disant « j'aurais peut-être l'occasion de l'utiliser ». Et c'est pour cela que je suis reparti dans 682 jours de grandes difficultés, mais servir les artistes, servir la culture, et par là servir la France, c'était une ardente obligation.
vois le signe de la fin de votre propos. Alors, vous avez été plusieurs fois ministre. J'ai compté dans votre biographie que vous avez été au gouvernement pendant près de 7 années. Hein, 7, 3 plus 4.
5 et 2, 9 même, avec 2 ans l'écologie, 5 ans.
Oui, alors, oui avant 2020.
Je voulais dire. Oui, d'accord.
On ne vous la fait pas donc en matière de composition de cabinet. Hein. Je dis ça parce que là, il y a un témoignage dans ce qu'on appelle un peu la mécanique gouvernementale et ministérielle. Je crois que vous en parliez. Je vous cite page 16. Je vous dis, il faut savoir une chose. Si vous n'arrivez pas au gouvernement avec les têtes de pont de votre équipe, Matignon et l'Élysée vous colleront des branques à la fidélité douteuse dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Est-ce qu'il est préférable de prendre comme directrice ou directeur de cabinet un haut fonctionnaire qui vient de l'administration du ministère que l'on dirige, ou est-ce qu'il faut mieux prendre quelqu'un d'extérieur?
Alors, d'abord, c'est vrai que il faut arriver dans un ministère avec 3 personnes indispensables, votre directeur ou directrice de cabinet, parce que c'est lui qui a votre délégation de signature, c'est lui qui, à vos côtés, gère vraiment...
C'est le ministre bis, hein.
C'est pas un ministre bis, c'est votre premier collaborateur.
D'accord.
Ensuite, le chef de cabinet, alors lui, c'est un peu comme on appelle dans l'armée le général ripincelle. C'est lui qui organise toute votre vie, qui s'occupe des locaux.
C'est le taulier.
C'est le taulier, exactement. C'est le taulier. Et c'est celui qui fait qu'on ne va pas vous voler des mètres carrés, des collaborateurs, et qui va mettre votre maison ministérielle au carré. Et puis la 3e personne extrêmement importante, c'est le chargé de communication et des contacts avec la presse. Parce que c'est là qu'on piège les ministres novices. Les journalistes adorent ça. Ils savent très bien que les conneries se font dans les 2 ou 3 premiers jours et que le chargé de communication, le conseiller communication est là, il filtre. Il va faire en sorte que les types vont piétiner sur votre paillasson pendant 15 jours. Vous allez, pendant ces 15 jours, affiner votre communication, prendre la mesure des choses. Si vous n'avez pas ces 3 personnes à vos côtés, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont, enfin, en particulier à Matignon et à l'Élysée, qui vont vous coller soit des gens qui vont vous fliquer, c'est-à-dire des gens dont la fidélité ne sera pas à votre égard, mais à l'égard du président ou du premier ministre, et qui seront chargés de vous surveiller, de vous influencer et vous empêcher de mener votre politique, ou alors, autre scénario, des gens dont on cherche à se débarrasser, et on se dit, tiens, Bachelot, là, on va lui fourguer celui-là, on ne peut plus le supporter. Et donc, ça, c'est le deuxième danger.
Très vite, ça démarre sur les chapeaux de roue, si je puis dire, puisque 10 juillet 2020, vous mettez déjà, moins d'un mois après avoir été nommé, votre démission dans la balance au sujet du plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors, dites-vous que Bercy vous plume purement et simplement, ce sont vos termes, et vous réussissez à gratter 2 milliards pour la culture. J'ai fait le ratio, c'est plutôt pas mal, hein,
2%, oui.
Hein, c'est plutôt même mieux que la part qu'on représente le budget de la culture sur
Exactement.
Le budget de l'État, en vous impliquant personnellement dans le dossier auprès de Castex. Vous êtes très positif sur Jean Castex. Vous avez connu 2 premiers ministres auparavant, qui étaient d'ailleurs vos amis.
Oui,
Jean-Pierre Raffarin
et
François Fillon, votre voisin de Sablé. Et Castex, c'est votre préféré? Ah, voilà une question compliquée.
Écoutez, je ne suis pas là pour jouer les Césars et distribuer des statuettes.
On reviendra à votre soirée César, elle vaut le détour aussi.
Souvent, c'est vrai que on me demande quelquefois de choisir entre les 3 présidents de la République que j'ai servi ou les 3 premiers ministres dont j'ai été dans leur équipe. Chacun a des qualités différentes, mais c'est vrai qu'entre Jean Castex et moi, il est passé une sorte de un lien très fort. D'abord, je suis le choix de Jean Castex, beaucoup plus que le choix d'Emmanuel Macron. C'est lui qui dit au président de la République, voilà, c'est elle qu'il faut prendre comme ministre de la Culture. Il m'appelait d'ailleurs sa lionne. C'est pour ça que j'ai une broche qui représente une tête de lionne que je portais d'ailleurs à la cérémonie d'intronisation pour le 2e mandat d'Emmanuel Macron, comme une sorte de... De clin d'œil à Jean Castex. Pourquoi est-ce que j'aime Jean Castex ? D'abord, c'est quelqu'un qui réussit une alchimie assez originale que je n'ai rencontrée ni chez Jean-Pierre Raffarin ni chez François Fillon, d'être un haut fonctionnaire, parce que moi, je ne suis pas de ces gens qui cassent du haut fonctionnaire. On a la chance d'avoir une haute fonction publique en France d'une extraordinaire qualité. Et je vous assure que quand vous, par exemple, à un Conseil européen, vous êtes devant votre, devant le chevalet France, face aux, aux autres pays,
que derrière
et, que
vous,
et que vous avez derrière les hauts fonctionnaires de la République française, vous avez des Rolls derrière vous. Hein? Moi, je casse pas du tout des hauts fonctionnaires. Et entre Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, Jean Castex est le seul à être un haut fonctionnaire énarque Cour des comptes. Mais on peut dire, ah oui, mais les hauts fonctionnaires, couper des réalités, arrogants. Et c'est le contraire, Jean Castex. C'est un homme, d'abord, il est maire d'une petite commune des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Prades.
Son papa était maire de Vic-Fezensac.
Et il est originaire du Gers, effectivement. Sa famille est de Vic-Fezensac. Et en plus, dans cette ville de Prades, il y a un merveilleux festival de musique qui a été fondé par le grand violoncelliste Pablo Casals. Alors, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de liens.
Vous, l'agnostique affirmé, confessé, bon, si j'ose dire, il n'y voyait rien de graveleux dans ce terme, hein, ou blasphématoire, une vraie émotion pour les cathédrales, dont vous dites... c'est sans doute cela qui m'a fasciné, malgré ou à cause de mon agnosticisme revendiqué, cette prodigieuse et majestueuse construction faite finalement de plus de spirituel que de matériel. Fin de citation. Alors vous rappelez qu'il existe 86 cathédrales en France et que du fait de la loi du 9 décembre 1905, elles sont restées du domaine de l'État, auquel il faut ajouter deux basiliques, hein, Saint-Denis et Carcassonne, et l'église Saint-Julien de Tours, ce qui fait 89 édifices qui relèvent de l'État en matière de lieux culte catholique. Racontez-nous votre première rencontre avec une cathédrale, la cathédrale Saint-Cyr de Nancy.
Nevers.
De Nevers, j'avais écrit Nevers. Saint-Cyr de Nevers, au petit matin de Noël, je crois, un petit matin de Noël.
Alors, c'est ne pensez pas que je deviens, comment dirais-je,
bigote.
Non, mais frappé d'un signe divin. Mais je suis né...
Tel Claudel derrière son pilier.
Voilà, je suis né le 24 décembre à minuit.
Et voilà. Déjà, ça pose,
et
ça,
oui,
quand même.
Déjà, ça vous pose. Bon, très bien. Et effectivement, je pense que si Dieu existe, après tout, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Si Dieu existe, il m'a envoyé quand même un petit signe en disant « je suis peut-être là quand même hein. ». Et mon père m'a donc, le matin, enveloppé dans un gros châle. J'étais un petit bébé de quelques heures. Et il est allé sonner à la porte du presbytère de l'évêque. Et l'évêque, pour lui demander de me baptiser, de m'ondoyer. Et l'évêque n'avait jamais vu un enfant si petit. Il s'est donc enveloppé de son manteau. Et avec mon père, ils sont allés tous les deux au fond baptismaux de l'église, enfin de la cathédrale de Nevers, pour me baptiser. Et je dois dire que quand j'ai visité les travaux de la cathédrale de Nevers en tant que ministre, j'ai raconté cela à l'évêque de Nevers, qui en était fort ému. Enfin, il n'a pas essayé de me convertir pour autant.
Non, j'ai voulu vous en parler parce que c'est dans le livre et je trouve que c'est un passage qui est très, très, très touchant.
Mais vous savez, je crois que cette spiritualité des cathédrales, elle touche tout le monde. J'ai eu, hélas, le malheur de voir deux fois ma cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes brûler. Et pratiquement la deuxième fois, j'espère que je peux dire la seconde fois, quelques jours après mon arrivée en charge au ministère de la Culture. Et quand on regardait la foule qui était amassée sur les quais de la Seine en voyant Notre-Dame brûler, beaucoup de ces gens qui étaient en prière ne croyaient ni en Dieu ni en diable et en tout cas n'avaient jamais mis les pieds à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Et pourtant, ils étaient, oui, en prière. Et Jean-Jacques Haneau, d'ailleurs, qui a fait ce film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, était en déplacement au Niger. Et il a eu la stupéfaction dans cette nuit où Notre-Dame brûlait d'être avec un convoi, une caravane, et il y avait deux chameliers musulmans qui étaient en prière pour Notre-Dame de Paris, au fin fond du Niger. Et cette émotion que raconte Jean-Jacques Haneau, je crois que tout le monde l'a partagée.
Alors, vous le dites aussi, une dimension à la spiritualité qui est quand même forte, parce qu'à un moment même, vous parlez d'espérance, hein, page 76, et on ne va pas être intrusif, mais vous évoquez votre Covid, hein, diagnostiqué le 19 mars 2021, alors que vous êtes en fonction, qui prend une forme très dure chez vous. Donc vous en parlez avec beaucoup de pudeur, hein, vous êtes hospitalisé, c'est tout à fait habituel, à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé. Quand on est membre du gouvernement, c'est une destination, hélas, choisie. Avant, c'était le Val-de-Grâce. L'aumônier aux armées vous apporte le jour des rameaux une branche d'olivier avec une phrase du pape François. Et vous dites « à moi la mécréante ». Alors, il faut dire que vous avez été pensionnaire dans une institution religieuse, pas des plus progressistes. Hein. Moi, quand j'étais jeune, les vocations à Angers de la retraite, dans le quartier de la Madeleine, qui existe toujours, c'était un peu considéré comme la prison des jeunes filles. Hein. Vous dites, on vous envoyait même à la messe le matin sans petit déjeuner. Hein.
Ah oui. Voilà, hein. Non, mais j'avais repéré les filles qui tombaient en pamoison.
Non, en pamoison ou en manque de...
Oui, c'est ça, elle devait faire une hypoglycémie. Alors j'avais repéré celles qui tombaient en pamoison et je les escortais pour... J'assurais l'évacuation.
Quel est quand même votre rapport, vous, à cette dimension? Parce qu'en matière de culture, on ne peut pas faire l'économie de l'espérance aussi et de la spiritualité. C'est quelque chose qui vous apportait, ça?
Oui, bien sûr. Parce que la culture est spiritualité. La culture, c'est le souffle de l'esprit. Et d'ailleurs, la rencontre entre la religion, entre... les croyances et l'expression culturelle, que ce soit d'ailleurs pour y souscrire ou pour s'y opposer, est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais à la rencontre de Monseigneur Valentin à Narbonne, où nous allons échanger sur cette question du culte et de la culture. C'est quelque chose d'extrêmement riche que de penser cela. Et ce n'est pas du tout antinomique avec l'agnosticisme, qui doit être vécu comme quelque chose de... Comment dirais-je? Qui doit être vécu avec modestie et avec une interrogation permanente. Mais c'est vrai que je n'ai pas voulu en faire des tonnes, je n'en ai jamais fait... Et j'ai pas utilisé le fait d'être atteinte de façon grave par le Covid, comme des centaines de milliers de Français. J'ai pas voulu en faire un élément de communication politique. Ce serait parfaitement déplacé, et je dirais même indécent. Mais quand vous êtes en soins intensifs, et certains d'entre vous l'ont peut-être vécu ici, mais que vous êtes entouré par des gens complètement déshumanisés, puisqu'ils sont entièrement en scaphandre, vous ne voyez ni leurs yeux, ni leur aspect, et que vous vous dites, bon, là, c'est peut-être le moment où le grand passage va se faire. Vous posez des questions sur vous-même, sur tout ce qui se passe, sur la... Comment dirais-je ? Sur l'instantanéité de cette vie. Et l'aumônier, il avait repéré que j'étais quelqu'un qui peut-être une âme à sauver, donc il venait me voir régulièrement. Et c'est vrai qu'il m'a donc amené ce rameau de... C'était pas un rameau d'olivier, c'était du buis.
Ah oui.
Parce que, n'est-ce pas, le jour des rameaux, on amène du buis qu'il avait cueilli dans son jardin, avec la phrase, je sais pas si vous l'avez noté, la phrase de Jean-Paul II, que la vie est quand même trop courte pour qu'on gémisse.
On vous a fait, comme d'habitude dans ces cas-là, un méchant procès sur les 42 000 églises de France et surtout celles des petits villages. et vous rappelez l'attachement des Français à leur clocher. Vous évoquez même la photo de l'affiche de François Mitterrand conçue par Séguéla et Pilan avec le petit village de Sermage, donc dans la Nièvre, hein, votre dépend de naissance. Et dont vous le savez, on avait d'ailleurs, on a raboté le clocher, hein, qui était trop voyant, hein, pour éventuellement l'électorat laïque de 81. Donc c'était la fameuse affiche de la force tranquille. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez voulu dire à propos de la difficulté qui était désormais les moyens d'entretenir les clochers des petits villages de France?
Vraiment, merci de me poser cette question parce que ça me permet de clarifier un certain nombre de choses. J'ai été présenté par certains malveillants comme quelqu'un qui voulait détruire les églises françaises. C'est quand même un peu fou. Simplement, j'ai indiqué un certain nombre de défis qui nous attendent. Nous avons 100 000 structures cultuelles dans notre pays, dont 42 000 églises paroissiales, qui sont la propriété des communes.
Depuis la loi de 1905.
Depuis la loi de 1905. Et la plupart de ces établissements, enfin ces structures, ne sont pas classées parce que le classement ou l'inscription correspond à des critères tout à fait particuliers, et en particulier un certain nombre d'églises du 19e siècle qui ne présentent pas un caractère patrimonial déclaré, même si elles représentent un vrai patrimoine spirituel, social, et une identification très forte chez des gens qui s'y sont mariés, qui ont baptisé leurs enfants, qui ont accompagné leurs parents dans leur dernière demeure. Cette dimension affective, elle compte effectivement beaucoup. Alors, c'est finalement le journal La Croix qui a fait un titre qui m'a réconcilié en disant « Roselyne Bachelot a eu raison de mettre les pieds dans le plat ». Dont acte. Parce que je situe les enjeux. Rien que pour répondre à l'enjeu du réchauffement climatique qui menace particulièrement l'ensemble des bâtiments patrimoniaux. Le journal Le Monde, il y a 3 semaines, chiffrait les nécessités de la mise aux normes du réchauffement climatique à, je vous demande, je le dis lentement, de mesurer l'importance, à 500 milliards d'euros. Sur les bâtiments publics, rien que pour pallier les méfaits du réchauffement climatique. 500 milliards d'euros. On ne parle évidemment ni de mise aux normes de l'accessibilité, ni de la sécurité, car les églises sont menacées non seulement dans leur construction, j'allais dire physique, mais aussi dans les trésors qui sont... Il y a 2 églises qui sont pillées toutes les semaines parce que plus personne n'y va, elles ne sont pas gardées et les maires n'ont pas les moyens de les faire garder. Et évidemment, je ne parle pas de restauration patrimoniale, hein. Je parle uniquement de ces trois défis. Donc, c'est un choix, hein. Je l'ai posé dans ces termes de choix. Pourrons-nous sauver entièrement nos églises? Ce seront des choix citoyens à faire. Il faut mettre plus d'argent dans l'éducation, plus d'argent dans les retraites, plus d'argent dans la santé, plus d'argent dans l'Ukraine, plus d'argent. Et 500 milliards, rien que pour faire face au réchauffement climatique dans nos bâtiments publics. Donc, ce sont les citoyens qui ont la réponse. Mais... il ne faut pas être effrayé. Peut-être qu'il y a des choses qui, au cours des siècles, ont changé. On construisait un baptistère sur un temple de Mitra. Puis ensuite, on détruisait le baptistère pour construire une église romane. Et puis ensuite, sur une église romane, on construisait une cathédrale. Et personne ne s'en effarouchait. Les travaux de Notre-Dame de Paris ont révélé que sous Notre-Dame de Paris, il y avait toutes sortes de choses qui avaient disparu. Nous sommes comme le héros funeste de José Luis Borges qui devient fou parce que sa mémoire garde tous les éléments à l'intérieur de cette mémoire. Et il faut que la mémoire individuelle trie entre un certain nombre de choses et on peut se demander si la mémoire collective ne doit pas elle aussi trier entre un certain nombre de choses.
Ce qui nous ramène au, au mythe du fleuve Léthé, l'oubli, hein, qui séparait l'enfer des vivants. Pardon pour la transition, je la saisis, elle est, comme on dit, capillotractée. Vous parliez du réchauffement climatique, vous avez un chapitre qui est intitulé « Winter is coming ».
Je regarde aussi Game of Thrones, c'est exactement. La culture.
Voilà, donc là, on voit bien la référence à la culture. Et dans ce chapitre, à Game of Thrones, vous dites au sujet des réactions qui ont immédiatement suivi les propos du président Macron qu'elles ont résonné comme l'alali, c'est votre terme. Alors, je cite cette phrase, « Le travail devra continuer, dit le président, sauf pour les commerces non essentiels, la culture, le tourisme, la restauration. » Alors, en ce lieu que vous connaissez bien, la librairie Mola, cette phrase, évidemment, a forcément amené des réactions dans un premier temps, commerce non essentiel. Puis après, la position a changé. Vous publiez, page 64, un extrait du texte de la chanson de Fabien Marceau, qui est le
Grand Corps Malade,
Grand Corps Malade, hein, consacré à l'expression pas essentiel. Et vous saluez d'ailleurs sa grande douceur poétique en vous excusant auprès de lui. Vous reconnaissez que cette expression fut une énorme maladresse, ce sont vos mots. Et vous excusez donc auprès de Fabien Marceau de l'avoir imposé. On a envie de vous demander comment vous avez pu défendre cette expression sans dire que c'était une bêtise de la part d'Emmanuel Macron de l'avoir utilisée. Et vous avez eu l'occasion, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui et est-ce qu'il a reconnu son erreur politique?
Alors, c'est à la fois une bêtise et une vérité parce que le terme de commerce essentiel désigne des commerces de subsistance. C'est un terme administratif.
Oui, j'allais dire, ça sent un peu sa technocratie.
Voilà, c'est pour dire que il faut manger tous les jours, mais que vous pouvez très bien ne pas aller au théâtre pendant 6 mois. Je pense que tout le monde le fait ici. Il y a seulement 10% des Français qui fréquentent un lieu du spectacle vivant, théâtre, concert, opéra. Je serai ce soir à l'opéra, bien sûr. Théâtre, concert, opéra, cabaret, festival, théâtre. Seulement 10% qu'ils fréquentent 10 fois par an. Et 58% des Français n'y mettent jamais les pieds. 58% des Français ne vont jamais, jamais dans un lieu de spectacle vivant. Bien. Donc, essentiel, c'est ce qui permet de continuer à vivre. Moi, j'estime que c'est difficile de continuer à vivre et pratiquement impossible de vivre sans culture. Mais effectivement, cette définition utilisée par le président de la République a été ressentie durement par les artistes et par le monde de la culture, parfois avec un peu de mauvaise foi, d'ailleurs, parce qu'ils savaient très bien ce que le président de la République voulait dire. Et c'était d'autant plus injuste que, maintenant qu'on a fait le bilan des politiques culturelles menées par la France a été le pays le plus généreux, le plus attentif et le plus soutenant pour le monde de la culture. Il y a Marie-Nicole Lemieux, que certains connaissent, ceux qui aiment la musique, la contralto québécoise, qui au micro de France Musique a dit « Vous les Français, je vous comprends pas, vous pleurez toujours la bouche pleine. » C'est sans doute la vérité. Mais effectivement, des artistes se sont sentis blessés, et c'est pour ça que j'ai mis une partie de la chanson de Fabien Marceau, de Grand Corps Malade, et de dire « je comprends aussi la peine que ça vous a fait ». Parce que la culture, et la culture pour un artiste du spectacle vivant, c'est pas seulement qu'on compense le manque à gagner, qu'on soutienne les passages difficiles, c'est aussi qu'on est privé d'échange avec le public, et les artistes y vivent de cela, de cet échange avec le public. Mais je ne l'ai pas dit au président de la République. Il avait d'autres chats à fouetter.
Alors, on ne va pas revenir sur une réunion à l'Élysée, justement, à laquelle vous êtes convié et qui est d'ailleurs en dehors de votre champ de compétences ministérielles. Si, quand on vous lit bien, vous dites que c'est l'ancienne ministre de la Santé, hein, qui a eu à gérer la grippe l'épidémie de H1N1 10 ans auparavant, qui est alors invité par le président de la République, au milieu d'un aréopage de médecins experts qui se montrent vite très hostiles envers vous. Et si j'évoque cet épisode, c'est qu'il vous inspire une réflexion très intéressante que je me permets de qualifier de tout à fait instructive sur ce que vous appelez, je vous cite, la parole des femmes dans l'espace public. Alors, page 74, vous écrivez, là, je me permets de vous citer encore, « On accepte la parole des femmes dans l'espace public qu'à condition qu'elle se coule, cette parole, dans le mainstream et soit validée par une référence masculine. Si vous tenez, vous continuez, si vous tenez à votre compte un propos disruptif, vous êtes traité au choix de mamie zinzin, d'incompétente ou d'écervelée, tentant de faire du buzz, là où un homme sera considéré comme un esprit fort et même visionnaire. » Est-ce que les choses ont aussi peu évolué depuis que Valéry Giscard d'Estaing a fait rentrer des femmes au gouvernement en 74? Je pense bien sûr à Simone Veil, à Madame d'Orlac, et puis après à Françoise Giroud.
Enfin, disons que le premier qui a fait rentrer des femmes au
gouvernement, c'est général de Gaulle avec Marie-Madeleine Guénèche.
C'est même Léon Blum.
Elles étaient sous-secrétaires d'État. Dont Irène Joliot-Curie.
Voilà.
Alors,
Cécile Brochefègue et Suzanne Lacor. Ouais. Donc, effectivement, évidemment, je consacre une partie de ma vie à continuer à lutter pour que l'égalité formelle devienne l'égalité réelle. J'ai donc passé ma journée du 8 mars avec des femmes élues et des femmes présidentes d'associations en Indre-et-Loire, où j'ai passé ma journée avec des femmes formidables, d'ailleurs, d'une intelligence et d'une sensibilité extraordinaire. Et c'est vrai que dans ce conseil départemental, comme ça se passe de la même façon en Gironde, maintenant que l'élection se passe par ticket homme-femme, on peut dire qu'on est dans une assemblée paritaire, 50-50 d'hommes et de femmes. Je dis à chaque fois que j'ai la possibilité de faire cette rencontre, attention, vous allez être marqué par deux phénomènes bien connus, pardon d'utiliser des termes anglo-saxons, mais ce sont les féministes américaines qui l'ont parfaitement documenté, le mansplaining et le manrupting. Ça veut dire quoi? Le mansplaining, ça veut dire qu'une femme dans une assemblée donne une observation pertinente ou préconise une action intéressante. Un homme, à sa suite, va s'emparer de cette préconisation et va la reprendre à son profit sans citer la source. Grand classique des assemblées, y compris les assemblées paritaires. Et le manrupting, c'est qu'on interrompt beaucoup plus rapidement une femme qui prend la parole qu'on interrompt un homme. Je dis, il faut chasser en meutant. C'est-à-dire que être là en observation, à partir du moment où vous avez observé cela, vous allez, vous, la collègue, reprendre la parole et vous allez sourcer l'observation de votre collègue féminine. Et de la même façon, vous allez protester si on interrompt les femmes plus rapidement. Je leur dis même, l'avantage du téléphone portable, c'est que vous pouvez minuter en douce. Vous allez voir. Et je fais souvent cette observation, et il y a des femmes qui me disent « Mais c'est incroyable, on ne s'en était jamais rendu compte. » Et c'est vrai que j'ai souvent eu des positions iconoclastes, où finalement j'ai été en quelque sorte dévalué par le fait que je ne me plaçais pas dans le sillage d'un homme. Donc ce constat, je le fais et je le fais encore.
Alors, il y a au moins un homme, plusieurs, hein, pour lequel vous rendez un hommage.
Tous ne sont pas mauvais.
Non, mais justement, vous avez...
Pardon, mais
j'entendais le souligner, pas trop, mais justement, y en a un donc que vous évoquez et vous allez le reconnaître quand je vais dire ce que vous dites de lui, un responsable politique d'exception. Je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que je pense qu'on a un peu oublié son nom. Je dis tout de suite que dans le film Paris brûle-t-il, il est interprété par Michel Piccoli. C'est Edgar Pisani. Alors il a été le député du Maine-et-Loire dans la circonscription sur laquelle votre papa a été élu en 68, donc sur la première du Maine-et-Loire. Donc Edgar Pisani, c'est un homme absolument exceptionnel. En quoi, par exemple, il vous a marqué, cet homme?
C'est vrai que quand Edgar Pisani arrive dans le département de Maine-et-Loire, mon père était donc son directeur de campagne, il a passé des heures et des heures à la maison. Et je me souviens, je le cite souvent, je m'en souviens comme si c'était hier, il avait organisé dans la campagne électorale de 1967, c'était très nouveau, un sondage, une enquête d'opinion auprès des habitants de cette première circonscription de Maine-et-Loire que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 25 ans. Et il avait posé des questions qui avaient été préparées par je ne sais quel cabinet de conseil. Ça existait déjà à l'époque.
J'étais pas nombreux.
Oui, voilà, mais c'était le fameux Michel Bongrand.
Exactement, le conseiller image de Le Canuet en 65, voilà, qui est de Chaban en 74. C'était moins bon, là.
Voilà, exactement. Ouais. Et il des questions, vous savez, des questions où on est sûr de la réponse. Est-ce que vous préférez habiter un appartement en pleine ville ou un pavillon à la campagne? Est-ce que vous préférez payer un quatrième tiers prévisionnel ou passer un week-end avec Brigitte Bardot, enfin tout ce genre de questions. Enfin, là, j'ai inventé évidemment le deuxième questionnement. Et en particulier, je me souviens de la question, est-ce que vous préférez un pavillon individuel ou un appartement? Évidemment, 98% des gens avaient répondu oui, un pavillon individuel. Et le présentateur voit surgir Edgar Pisani sur la scène de la salle où on rendait les conclusions de ce sondage. Et là, Edgar Pisani s'adresse aux Angevins ahuris et leur dit « Vous avez tout faux ». Et il décrit exactement, on est en 67, hein, il décrit exactement les méfaits de l'étalement urbain, les problèmes de transport, d'artificialisation des sols, et que c'est une bêtise absolue que de vouloir cet étalement urbain et qu'on va vers des problèmes sociaux tout à fait considérables.
Les gilets jaunes.
Et je suis mais stupéfaite. Cette affaire s'est passée il y a plus de 50 ans. Et il y a des visionnaires qui, à ce moment-là, disent avec beaucoup de courage et en piétinant toutes les formes de démagogie, qui disent cela. Et puis, bien sûr, il a trahi, si l'on peut dire, le général de Gaulle en 68. Mais il y a une phrase qu'il prononce dans son fameux discours à l'Assemblée nationale, qui est un très grand texte, le discours d'Edgar Pisani. Et il se tourne vers la majorité, vers le gouvernement, il dit « Vous aviez le choix de répondre soit à la contestation, soit à l'angoisse, et vous avez choisi de répondre à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse. » Et chaque fois que je vois le débat public, je pense à Edgar Pisani. Et je pense qu'effectivement, les politiques répondent souvent plus à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse des concitoyens.
À plusieurs reprises dans votre livre, vous déplorez ce qu'on a appelé les grands travaux mitterrandiens, dont vous dites qu'ils sont frappés, tel l'opéra de la Bastille, en plus de l'experte que vous êtes, non pas d'obsolescence programmée, mais d'obsolescence accélérée. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron n'ont eu ni leur pyramide du Louvre, ni leur musée du Quai Branly. Selon vous, c'est un signe de quoi ? De raison ou de pauvreté ?
Moi,
J'ai pas dit de pauvreté d'esprit. Hein. J'ai dit
je
de raison ou de
je
pauvreté.
Je n'accuse pas. Ouais. Par exemple, on a dit, enfin, certains commentateurs qui, sans doute, n'avaient pas lu le livre, c'est en général la caractéristique de certains nombres de commentateurs qui en parlent, on dit que j'avais été sévère vis-à-vis de Jack Lang. Pas du tout, je lui rends hommage dans le livre
Confirme dans une bataille.
Mais c'est vrai que quand les grands travaux sont imaginés en 81, la question du réchauffement climatique, personne n'en parle. Je leur en fais pas grief. Oui, il y avait des esprits extraordinairement perspicaces comme Edgar Pisani qui en parlait, mais justement, ils étaient rejetés massivement par la classe politique parce que ce qu'ils disaient était profondément inquiétant, gênant, venait casser des présupposés fortement ancrés dans, à la fois dans les élus et dans la population. Donc, cette question qui surplombe toutes les autres, de la question du réchauffement climatique, des perturbations du climat, ne sont pas rentrées dans la maquette de réflexion. Et nous nous trouvons, pour ces grands travaux, mais aussi pour les travaux précédents, enfin, tout ce qui s'est construit au 19e siècle et au début du 20e, dans les architectures métalliques, on en a un excellent exemple avec le Grand Palais. On y met 466 millions de restaurations, excusez du peu, 466 millions de restaurations pour le Grand Palais, ce qui fait que des constructions modernes résistent moins bien qu'un château du Moyen-Âge, qu'un château fort du Moyen-Âge. Donc on est en face avec les grands travaux de François Mitterrand, parce que c'est François Mitterrand plus que Jacques Lang d'ailleurs qui a voulu ces grands travaux. On est en face de passoires thermiques absolument impossibles et qui coûtent extrêmement cher comme remise aux normes.
Alors ça nous amène un peu à un point très important dans votre livre, c'est la répartition non seulement des compétences, mais j'allais dire aussi des charges entre l'État et les collectivités territoriales. À plusieurs reprises, vous êtes un peu sévère avec les élus locaux. Il y a un passage qui est tout à fait passionnant, c'est vous racontez que vous êtes au baptême du grand auditorium de la scène musicale, alors ça s'écrit S-E-I-N-E, hein,
il y a un jeu de mots,
hein, sur l'île Seguin, donc à Boulogne-Billancourt. C'est un équipement qui a été voulu par votre ami Patrick Devedjian, qui est décédé, on s'en souvient, dans les premières semaines du Covid, qui était président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il s'agissait donc en son hommage de donner son nom au grand auditorium. Et là, vous dites que j'écumais littéralement de rage en écoutant que le ministre de la Culture, sans pouvoir répondre, des discours des élus locaux qui étaient présents ce soir-là et qui racontaient à vos yeux à peu près n'importe quoi.
Ils racontaient pas n'importe quoi, non, c'est bien ça le problème. Si encore ils avaient raconté n'importe quoi. Ils mettaient en cause l'État de façon continue. Il faut reconnaître que les lois de décentralisation ont laissé de côté les questions de culture, parce que on sortait d'une période qui dure sur des millénaires, où finalement la politique culturelle était aux mains de l'État. Pour des raisons nobles et des raisons moins nobles. Comme dit Michel Vinocq, en France, l'État a précédé la nation. Et l'État, un de ses bras armés, était aussi les politiques culturelles. Versailles n'est pas construit d'abord pour faire un palais pour le roi. Versailles est construit pour en faire un moyen de mettre à quia les grands féodaux qu'on met en position presque d'infériorité physique par rapport au pouvoir du roi. Et donc, cette façon de considérer la culture comme un outil au service de l'État pour justement faire nation, c'est quelque chose de très important. Et quand les lois de décentralisation arrivent, en 1982-1983, c'est vrai que les collectivités territoriales ne se saisissent pas immédiatement des questions culturelles. Elles vont mettre pratiquement deux décennies à s'en saisir. Et dans ce rapport qui est faussé entre l'État et les collectivités territoriales, les collectivités territoriales ont eu du mal à s'approprier cela et elles ont intériorisé une certaine dépendance vis-à-vis de l'État. La loi du 13 août 2004 est parfaitement claire. Tout le patrimoine non classé, non inscrit est de la responsabilité des collectivités territoriales. Et à chaque fois, l'État est mis en cause parce qu'il n'assurerait pas la protection de ce que certains appellent le patrimoine vernaculaire. Mais non, c'est aux collectivités territoriales, c'est aux communes. On revient à la question des églises que nous abordions à l'instant. C'est à ces collectivités territoriales de l'assurer. Et véritablement, cette culpabilisation de l'État central est quelque chose qu'il faut régler. Il faut que chacun accepte ses responsabilités. Les collectivités territoriales ne peuvent pas s'avancer vers l'État, un cocktail Molotov dans une main et la sébile dans l'autre.
C'est la phrase de Maurice Druon.
La phrase de Maurice Druon.
Je suis obligé d'accélérer parce que je veux à la fois que vous puissiez dédicacer, puis surtout vous avez votre rendez-vous tout à l'heure.
Ah bah écoutez, je vais voir la favorite.
Oui,
c'est pas de moi dont on parle, bien
sûr. Voilà, hein, mais c'est pas loin. Mais vous savez que c'est pas loin. On arrive à cet épisode qui a été souvent rapporté par la presse. Dans la présentation de votre livre, c'est pour ça qu'on va passer peut-être assez vite, mais c'est l'échange avec Benjamin Biolay, Clara Luciani, etc. Là, je vous cite, page 144, « Tout au long de cette crise, je suis resté scotché par le double langage de ce milieu. Quand on passait saluer les artistes dans l'horloge, les témoignages de gratitude étaient constants. En revanche, à la télévision et à la radio, la hargne et la victimisation se déployaient. » Fin de citation. Alors, on identifie en tous les cas ici une partie des hypocrites qui valsent sur le parquet du bal, pour reprendre votre vrai faux bandeau. Mais en quoi, selon vous, le système de l'intermittence crée des vases sacrés, c'est votre expression, tout en risquant une précarisation généralisée des acteurs du secteur?
Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Parce que, évidemment, Benjamin Biolay ne profite pas de l'intermittence. Les musiciens qui l'accompagnent en profitent, mais très bien. Non, ce que j'ai été attaqué, parce que je n'ai pas attaqué, j'ai été en réponse, et en réponse assez douce, en tenant compte justement des souffrances occasionnées par la rupture entre le public et l'artiste. Et j'ai beaucoup pardonné ou excusé un certain nombre d'attaques. Mais c'est vrai que quand un artiste comme Benjamin Biolay s'avance sur la scène des Victoires de la musique en disant « Vous nous avez mis au pain sec », j'ai simplement dit que sa tartine de pain sec était beurrée des deux côtés. Ça n'a rien de très méchant comme réponse, vous l'avouerez. Bien. J'ai défendu le régime de l'intermittence, deuxième question, en n'oubliant pas une chose quand même qui est parfois oubliée par les syndicalistes qui défendent l'intermittence, c'est que l'intermittence n'est pas une conquête sociale. L'intermittence est quelque chose qui a été inventé dans les années 30 par le patronat de l'industrie cinématographique au moment où le cinéma, justement, devient une industrie et où les grands patrons de cette industrie culturelle rencontrent des difficultés pour trouver du personnel, des menuisiers, des maquettistes, des décorateurs, des tapissiers, etc., pour faire fonctionner leur industrie. Et évidemment, dans cette période de plein emploi, les gens ne quittaient pas des métiers où ils avaient un contrat à durée indéterminée pour aller pendant 3 mois ou 4 mois sur un plateau de cinéma. Donc ce qui était le MEDEF de l'époque invente l'intermittence. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'intermittence a été inventée par le patronat pour trouver du personnel. Et on a en quelque sorte oublié la genèse de ces prétendues conquêtes sociales. Et en tout cas, j'ai toujours trouvé, et pas étonnant, mais amusant finalement, de voir que le régime de l'intermittence était ainsi présenté. Enfin, le régime de l'intermittence a d'énormes qualités parce qu'il a permis à l'industrie culturelle d'exister. Il ne faut pas oublier... C'est un argument que j'essaie de ne pas utiliser parce que pour moi, la culture n'est pas par définition une industrie. Mais quand même, la culture, c'est 670 000 emplois dans notre pays. C'est une puissance économique supérieure à celle de l'aéronautique ou de l'industrie automobile. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me bats pour protéger la propriété intellectuelle. Parce que je suis toujours surprise de voir, par exemple, le député à l'époque de la France insoumise s'opposer aux mesures de protection de la propriété intellectuelle au motif que le public doit avoir un accès libre et gratuit à toutes les formes de culture. C'est impossible, parce que les pilleurs, demain et aujourd'hui, ce ne sera pas... Le citoyen, je dirais, lambda, pardon, c'est un terme affreux, mais ce seront des grands majors, des grandes majors américaines qui viendront piller ce patrimoine culturel. Pourquoi est-ce qu'on trouve normal de défendre l'aéronautique? Et je dis à ce député de la France insoumise, et vous avez raison de vouloir le défendre, et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas défendre vos industries culturelles? Donc, oui, la culture, c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau.
Alors, j'avais plein de questions à vous poser, avec toutes les notes que j'ai. Votre livre, c'est une succession de pépites à chaque passage. Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre. C'est un moment très émouvant. C'est votre voyage à Auschwitz pour le 77e anniversaire de la libération du camp. C'est le chapitre 11. Alors, vous vous posez dans un aéroport que je connais bien, qui est Pejovice, à côté de Katowice. Et vous êtes accompagné de Emmanuel Vargon, qui est la fille de Lionel Stoleru, d'Élie Buzyn, le papa d'Agnès, qui a été interné à l'âge de 15 ans à Auschwitz, qui est décédé, hélas, Élie Buzyn, le 23 mai 22. Et puis, il y a aussi Raïm Korsia, le grand rabbin de France, qui était un des meilleurs amis de Jacques Chirac. Il y a Élie Korsia, le président du Yad Vashem, et puis Pierre-François Weigl, un des fils de Simone et Antoine. Je voulais vous citer une phrase que l'on prête à Adorno, le grand philosophe de l'école de Francfort, qui dit « Après Auschwitz, la culture, c'est de la merde. » Vous êtes allé à Auschwitz, à Birkenau, comme ministre de la Culture. Alors, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Vous n'en parlez pas dans votre livre, mais je ne voulais pas avoir passé l'occasion d'avoir cette ancienne ministre de la Culture que vous avez été par rapport à ça.
Alors, je dois dire que l'histoire d'Auschwitz, bien sûr, je pense à ma grand-mère maternelle qui cachait des Juifs dans son grenier. C'est une histoire personnelle. Mais aussi, le combat pour la restitution des biens juifs spoliés est un combat que je mène depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs, j'ai voulu que le seul tableau de Klimt qui était dans les collections nationales,
Rosier sous les arbres,
qui était au musée d'Orsay, soit restitué aux ayants droit de Nora Stiassny. Et c'est vrai que j'ai demandé une faveur, c'est-à-dire que avant de montrer ce tableau restitué aux ayants droit de Nora Stiassny, j'ai demandé qu'on le fasse porter dans mon bureau. Et je suis donc restée en tête-à-tête pendant une heure avec ce tableau. Et je pensais à tout ça. Parce que la séquence, elle est extraordinaire dans ma vie. C'est cela, c'est le projet de loi où on fait la restitution, parce que les biens qui sont détenus dans les musées français sont inaliénables. Il faut donc une loi. J'enchaîne avec la restitution du trésor d'Abomey au Bénin, là aussi à travers une discussion très, très intense. Et puis la guerre en Ukraine le 24 février. Et cette séquence, pour moi, elle a du sens. Et je trouve quand même tout à fait extraordinaire que dans cette période de doute que nous traversons, où on parle des retraites, où on parle des difficultés pour à cause des restrictions sur le pouvoir d'achat, on ne parle quasiment plus de culture. Est-ce qu'il n'y a qu'en Ukraine où on va parler de culture? Parce que les Russes, ils ont compris comment on attaque l'âme d'un peuple. On bombarde ses cathédrales et on vole les œuvres d'art dans les musées. Parce que c'est aussi cruel et destructeur d'attaquer la culture que d'attaquer une centrale électrique. Et ça, il faut s'en souvenir tout le temps.
Toute dernière question, parce que c'est la dernière phrase de votre livre. Vous dites « Demain est un autre jour ». Donc, ça fait près de 270 jours que vous êtes revenu à la vie civile, si on compte les jours, depuis votre départ de la rue de Valois, peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire demain? Parce que vous êtes une grande spécialiste de l'opéra, mais jouer au théâtre, cela ne vous intéresse pas? Je vais vous proposer un rôle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vous feriez une très belle Dorine dans le Tartuffe de Molière.
Oh, je sais pas, je peux vous faire un peu de...
Vous n'allez pas faire votre...
Je vais vous faire, histoire de bien voir d'où nous venons, je vais vous faire un petit peu de Molière. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats, vous devriez jeter tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville, m'ôter pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens et son brimborion dont l'aspect importune ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, mais vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous où nous voyons aller tous en dessus dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses, former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui pensaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses.
Je vous donne ma parole que nous n'avons pas préparé cette chute. Merci beaucoup, Rosine Bachelot. Merci.